Vous avez reçu la feuille de route, vous l'avez sous les yeux. Alors sur la première page, il y a simplement le plan du décret Unitatis Redintegratio. Ça, c'est le plan du décret du Concile, de manière à ce que vous puissiez suivre éventuellement là. Mais le plan de ce cours, de cette conférence, est de l'autre côté, avec deux grandes parties, les grands événements, et puis le texte du décret Unitatis Redintegratio, que je vais commenter très rapidement, mais en essayant de m'arrêter aux points principaux et en citant parfois assez largement le décret lui-même. Alors, les grands événements avant le Concile d'abord, et puis pendant le Concile. Avant le Concile, bien, il faut rappeler d'abord que s'il y a une tâche écuménique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des scissions, des séparations, et les deux principales ont eu lieu en 1054 et en 1521. Je rappelle ces deux dates. Donc en 1054, un certain Humbert de Moyenmoutier, qui avait une mission à remplir à Constantinople, il s'est un peu énervé avec Michel Céruler, qui était le patriarche de Constantinople, et il a fini par déposer sur l'autel de Sainte-Sophie, une bulle d'excommunication pour le patriarche. 1054. Alors en fait, cet événement, était grave, évidemment, mais il n'a pas eu énormément de conséquences jusqu'en 1204, parce qu'en 1204, c'était la quatrième croisade et la fondation de l'Empire latin de Constantinople, au sens où les croisés latins sont venus à Constantinople, ont pillé Constantinople et puis se sont installés là-bas. Ils ont installé leur empire latin et ils ont nommé un patriarche latin sur le siège de Constantinople de 1204 à 1261. Alors c'est à ce moment-là que les choses sont devenues graves, si on veut, et qu'on s'est souvenu, de manière beaucoup plus cuisante, de cette bulle d'excommunication de 1054. C'est une histoire très compliquée, parce que cet Humbert de Moyenmoutier, semble-t-il, n'avait pas les pouvoirs pour fulminer cette bulle, comme on dit. Peu importe, cette date est emblématique du côté oriental Constantinople. En 1521, vous savez que Luther, lui aussi tombe sous le coup d'une excommunication, mais qui est fulminée en bonne et due forme, si j'ose dire. Il a été prévenu, il y a eu des coups de semonce, il y a eu des discussions avec lui. Donc là, je dirais, du côté juridique, il n'y a pas d'hésitation. L'excommunication de 1521 ne pose pas de problème au niveau juridique. Je ne dis pas au niveau historique et écuménique, etc., bien sûr, mais au niveau juridique, ça ne pose pas de problème, alors que la précédente pose pas mal de problèmes. Voilà, évidemment, ces deux dates, il faut les signaler. C'est le schisme d'Orient, comme on dit, et puis le schisme du côté occidental, avec les orthodoxes, avec les protestants. Bien. Vous voyez d'ailleurs sur le plan du décret lui-même qu'au chapitre 3, il y aura deux parties. Une première consacrée à des considérations particulièrement par rapport aux églises orientales, et puis les églises et communautés ecclésiales séparées en Occident. Grosso modo, ça veut dire d'un côté les orthodoxes, de l'autre les protestants. Mais vous pouvez déjà remarquer qu'on en parle différemment. D'un côté les églises orientales, et de l'autre les églises et communautés ecclésiales séparées. Donc déjà les noms sont différents, même si ils sont tous regroupés sous églises et communautés ecclésiales séparées. Voilà. Alors quelques dates pour marquer ce qu'on pensait dans l'Église catholique de cette double scission. En 1928, par exemple, dans une encyclique Mortalium Animos, le pape Pie XI dit ceci. On ne peut réaliser l'unité des chrétiens qu'en faisant en sorte que les dissidents reviennent à l'unique et véritable Église du Christ de laquelle ils se sont malheureusement éloignés. Donc vous voyez que Pie XI conçoit cette réunification comme eh bien, une repentance des dissidents qui reviennent à l'Église catholique, sans plus. Pie XII fait déjà un pas en avant d'une certaine manière avec l'encyclique Mystici Corporis, le corps mystique. Le corps mystique, encyclique de 1943. Dans cette encyclique, on définit l'Église catholique comme le corps mystique. Alors il est bien clair que pour Pie XII, c'est l'Église catholique qui est le corps mystique. Mais c'est déjà le corps mystique. Ce n'est pas seulement l'Église institution. Donc pour appartenir à ce corps mystique, il faut avoir la foi, le baptême, être en communion avec la hiérarchie de l'Église qui se trouve à Rome. Donc ça c'est très classique. Et donc on identifie comme d'habitude l'Église avec le corps mystique, l'Église catholique avec le corps mystique, mais en même temps, il y a déjà une vision plus mystique, une vision moins juridique, qui prépare d'une certaine manière cette affirmation capitale de Vatican II, c'est que l'Église, bien sûr, est repérable dans l'histoire, on la voit, c'est une institution, mais cette institution est le symbole d'une réalité fondée en Dieu lui-même, en l'unitrinité de Dieu. Donc il y a un lien entre l'Église terrestre et l'Église céleste, en Dieu lui-même. Et donc l'Église terrestre est, à titre de réalité, mais un réel symbole de cette unité entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. Et donc on a déjà une conception plus mystique, plus théologique, je dirais, moins juridique, moins institutionnelle. Et pourtant, cette encyclique dit bien sûr que n'appartiennent à l'Église que ceux qui ont la foi, le baptême et qui sont en communion avec la hiérarchie de l'Église, à moins que, s'ils sont de bonne foi et à titre personnel, ils s'y rattachent par un vœu, qui peut être même implicite et inconscient. Donc, si quelqu'un dans une autre confession ou même dans une autre religion, c'est dit explicitement, formule le vœu d'appartenir à ce corps mystique, et donc à l'Église catholique, eh bien, d'une certaine manière, il y appartient mystiquement. Mais à titre personnel, et là c'est important, donc c'est une personne d'une autre confession qui éventuellement aurait un lien avec l'Église catholique, ce n'est pas toute sa confession, toute sa communauté. Alors un événement qui n'est pas du côté de l'Église catholique, mais qui est plutôt du côté justement de surtout des protestants au point de départ, des anglicans, les missionnaires, la création du Conseil œcuménique des Églises en 1948. Ce Conseil œcuménique des Églises, c'est une institution extrêmement importante qui a été préparée pendant 2 siècles à peu près, surtout par les missionnaires protestants qui arrivaient dans un pays à l'étranger et puis qui se retrouvaient à 2 ou 3 ou 4 confessions l'une à côté de l'autre à prêcher le même Christ, mais en même temps on n'est pas les mêmes, quoi. Alors il se disait, c'est un peu drôle, hein, la parole même que nous prêchons est en contradiction avec notre comportement ou l'inverse. Hein. Donc progressivement, beaucoup de missionnaires d'abord, protestants, anglicans, etc., ont eu un mouvement de réflexion qui a conduit finalement, juste après la guerre, et c'est important aussi de remarquer cette date de 1948, hein, aussi au niveau politique à ce moment-là, hein, la Société des Nations, les Nations Unies, etc., eh bien, il y a un conseil œcuménique des Églises qui est fondé en 1948 à Amsterdam. Et il rassemble d'emblée 146 églises, 146 confessions, principalement protestantes. Leur base commune d'adhésion est définie comme suit: reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc un critère christologique. Ce conseil œcuménique des églises va évoluer, va avoir des assemblées. En 1961, à New Delhi, on définit davantage, de manière plus précise, la base d'adhésion commune à ce conseil œcuménique des églises. Les confessions qui veulent appartenir à ce mouvement doivent être explicitement trinitaires. Pas seulement donc une base christologique, reconnaître Christ comme sauveur, mais en plus, ce Christ est Dieu incarné, un des trois de la Trinité. Et aujourd'hui, ça évolue beaucoup bien sûr, mais en 2009, ils étaient 349 confessions différentes qui réunissaient à peu près 400 millions de fidèles. Donc c'est un mouvement énorme qui veut se rassembler et dialoguer entre eux, mais aussi avec l'Église catholique. L'Église catholique ne fait pas partie de ce Conseil œcuménique des Églises. Et les églises, certaines églises orthodoxes n'y ont adhéré qu'après la définition de 1961. Ça veut dire l'affirmation trinitaire, pas seulement christologique, mais trinitaire. Donc, certaines églises orthodoxes appartiennent maintenant à ce conseil, conseil œcuménique des églises. Quelques événements contemporains du concile. Vous avez là sur votre feuille de route, eh bien, une manière un peu imagée de voir ces événements. Donc, les trois dates, 62, 63, 64, 65. Les petits pointillés, ce sont les sessions du concile. Alors, ce qui s'est passé avant est à gauche, ce qui s'est passé après est à droite. En 62, donc, Jean XXIII avait convoqué le concile dès 1959, il y pensait, il l'avait convoqué, et il le désirait vraiment. Il avait invité d'emblée des observateurs non catholiques à venir à ce concile œcuménique des églises. Donc, dès avant la première session du concile, toute une série d'observateurs étaient invités à assister aux travaux. Non pas à y participer, mais à assister. Ces observateurs ont été assez nombreux dès la première session, mais dès la deuxième, troisième session, ils ont été beaucoup plus nombreux parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de cet événement. Alors, ces observateurs non catholiques, donc, se réjouissaient de pouvoir participer à cela, et les catholiques se réjouissaient de les accueillir. Congar, par exemple, en avait les larmes aux yeux lorsqu'il accueillait tous ces observateurs, parce que c'était aussi un peu le fruit de son travail. Il dit en seconde session, ils sont beaucoup plus nombreux qu'à la première session, dit Congar, et j'ai comme l'an dernier les larmes aux yeux, quel événement, que Dieu a agi dans le monde. Parmi ces observateurs, il y avait toutes sortes de personnes, dont Karl Barth. Je vous raconte une petite anecdote. Karl Barth était un grand théologien calviniste, réformé, comme on dit, invité à être au concile par les milliers d'observateurs. Et il est invité un jour à une entrevue avec Paul VI, qui lui dit « Ah, monsieur Karl Barth, vous êtes certainement un des plus grands théologiens de ce XXe siècle. » Et Karl Barth de répondre « Saint-Père, je finirai par croire à l'infaillibilité pontificale. » Vous voyez que les choses se passaient parfois dans la bonne humeur. Et donc la présence de ces observateurs était vraiment une chose extraordinaire. Comme vous savez, Jean XXIII est décédé, Paul VI a été élu, et c'est lui qui a ouvert la seconde session. Dès l'ouverture de cette seconde session, il a demandé pardon aux frères chrétiens pour les fautes commises par les catholiques contre la communion voulue par le Christ. Dès l'ouverture de la seconde session, il a commencé par un geste symbolique très fort, hein, cette demande de pardon. C'est à la fin de cette seconde session que, comme vous savez, est sorti le document Sacrum Concilium, Sacrosanctum Concilium. J'ai mis là donc les sigles des documents dont on vous a déjà parlé, celui-là, Lumen Gentium, dont je vous parle et dont on vous parlera la prochaine fois. Nostra Aetate sur les religions non chrétiennes. Vous voyez donc qu'ils arrivent au bout de la deuxième, troisième ou quatrième session. Vous pouvez donc situer celui dont je vous parle. Mais avant de commencer la troisième session, Paul VI a eu un autre geste symbolique extrêmement fort. Il s'est rendu en Terre Sainte et là, il était avec Athénagoras de Constantinople qui l'a embrassé en signe d'unité dans le lieu même où les deux frères, Pierre et André, avaient été appelés ensemble par Jésus. Alors j'ai une information que je n'ai pas suffisamment vérifiée, mais je crois que c'est à ce moment-là ou à un autre moment qu'il a restitué le chef de Saint-André aux orthodoxes. La relique du crâne de Saint-André était en possession des catholiques. Et il a été restitué, je ne sais pas si c'était à l'occasion de cette rencontre ou autre, aux orthodoxes. Voilà, des gestes symboliques très forts que nos frères orientaux apprécient. Après la quatrième session, il y a eu la levée réciproque des excommunications. Parce que Michel Cérulaire, lui, avait également excommunié le pape, hein. Donc voilà, le pape est excommunié, le patriarche de Constantinople était excommunié, mutuellement ils étaient excommuniés depuis 1054. Eh bien, le 7 décembre 1965, les sentences d'excommunication ont été levées réciproquement. Voilà un geste donc symbolique extrêmement fort. Si donc les amateurs de Denzinger ont envie d'explorer le Denzinger avant le concile et après le concile, eh bien tournez un peu autour de la date de 1054 et vous verrez qu'il y a eu des changements. Voilà pour les événements. Maintenant, je prends le texte du décret lui-même. Dans le préambule au numéro 1, eh bien, il est indiqué que ce n'est pas un à un qu'on considère nos frères séparés, mais comme appartenant à une communauté qui est leur mère, la communauté mère où ils ont appris l'évangile, où ils ont été baptisés, qu'ils considèrent comme leur mère, comme leur église. C'est à l'intérieur de cette communauté qu'on les considère, et non pas un à un, en disant, bah, tiens, un tel va peut-être se convertir, ou un tel a une foi implicite dans l'église mystique. Non, c'est donc comme communauté que nos frères séparés sont considérés. Je crois que c'est un grand pas, et par rapport à Mystici Corporis, donc, où explicitement on disait que c'est à titre personnel que l'un ou l'autre pouvait appartenir à l'Église par un vœu implicite, même inconscient, et bien donc ici on dit non, c'est en tant que communauté, et donc on respecte ce rassemblement de chrétiens. Je lis ce texte. À ce mouvement vers l'unité, qu'on appelle le mouvement œcuménique, prennent part ceux qui invoquent le Dieu Trinité et confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un texte de 1964, en 1961 précisément, on a défini à New Delhi ce conseil œcuménique des églises de cette manière-ci. Les chrétiens, ils invoquent le Dieu Trinité, ils confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on ajoute, il ne s'agit pas seulement de chrétiens pris un à un. Il s'agit de chrétiens réunis en communauté dans laquelle ils ont entendu l'Évangile et qu'ils appellent leur Église et l'Église de Dieu. Donc voilà, quelqu'un qui est né calviniste, qui est né dans un mouvement pentecôtiste, eh bien, s'il confesse la Trinité et Jésus Sauveur et qu'il entend l'Évangile, qu'il se fait baptiser, eh bien, il appartient à cette communauté. Cette communauté est son Église, est sa mère, est l'Église de Dieu. Eh bien, il faut les respecter en tant que tels. Il ne s'agit pas de chrétiens pris un à un, mais de communauté. Donc ça, c'est fort important pour le dialogue. La communauté comme telle est respectée. Et un peu plus loin, au numéro 3, mais je le mets sous ce même titre de non pas un à un, mais en communauté, je lis le numéro 3. Ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyons victimes de déficiences, ne sont nullement dépourvus de signification et de valeur dans le mystère du salut. L'Esprit du Christ, en effet, ne se refuse pas à se servir d'elles comme de moyens de salut, dont la force dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. Donc il y a vraiment, cette communauté est considérée comme un moyen de salut pour les personnes qui y sont, parce qu'il y a une plénitude de grâce et de vérité qui s'y trouve, mais qui en fait a été confié à l'Église catholique et qui dérive donc de l'Église catholique telle que ce texte le signale. Voilà donc un premier point. Un deuxième point, on entre dans le chapitre 1, qui, je dirais, chapitre 1 et chapitre 2 sont plus théoriques, le chapitre 3 est beaucoup plus concret. Le chapitre 1, les principes catholiques de l'écuménisme. Donc les principes, et puis, chapitre 2, l'exercice de l'écuménisme, donc la théorie et la pratique, si on veut, d'abord les principes. Alors observez le titre, les principes catholiques de l'écuménisme. Eh bien, savez-vous quel était le titre initial qui a été changé? C'était les principes de l'écuménisme catholique. Petit changement, voilà, on a changé un mot de place, ce qui est assez différent finalement. Les principes de l'écuménisme catholique, comme si l'écuménisme était catholique, qu'il était né dans le catholicisme par exemple, Eh bien non, après des discussions, certains pères conciliaires très subtils, peut-être qu'on regarde, hein, ces gens-là étaient très subtils, eh bien ont proposé simplement un déplacement. Les principes catholiques de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est pas seulement l'Église catholique, hein. C'est le Conseil œcuménique des Églises aussi. D'ailleurs, ce mouvement est finalement né en dehors de l'Église catholique. Donc, ne récupérons pas ce mouvement. Reconnaissons qu'il y a une manière catholique de participer à l'écuménisme de tous. L'Église n'a pas le monopole de la recherche authentique de l'unité. Elle n'a pas ce monopole. Elle y participe, mais d'autres y participent aussi. Et y apporte une contribution qui leur est propre. C'est ce qu'affirme le numéro 4, dont je parlerai ensuite plus longuement, parce que là, il y a un point très délicat dans ce numéro 4. Mais je lis d'abord le passage plus simple. Étant donné qu'aujourd'hui, en diverses parties du monde, sous le souffle de la grâce de l'Esprit-Saint, beaucoup d'efforts s'accomplissent par la prière, la parole et l'action pour arriver à la perfection de l'unité voulue par Jésus-Christ. Jean 17, hein, cette prière pour l'unité de Jean 17. Le Concile exhorte tous les fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps. Nous avons comme catholiques à reconnaître les signes des temps. Voilà un slogan aussi de Vatican II. Hein. Les signes des temps, ce qui se passe dans le monde. Et ainsi à prendre une part active à l'effort écuménique. C'est un signe des temps, ce désir d'unité, et nous avons à y prendre une part active à l'effort écuménique, je dirais sous-entendu, initié par d'autres églises. Le titre là, en changeant l'adjectif de place, a un peu indiqué cela, que cet effort écuménique n'est pas né dans l'Église catholique, et nous avons à y participer. Alors au numéro 3, vous voyez sur votre feuille des relations entre frères séparés et Église catholique. On parle beaucoup dans ce texte de frères séparés. De frères séparés. Oui, c'est un terme bon, qui est clair et net, qui est un peu sec. Bon. Dans d'autres documents, on parle d'Église sœur. On est passé du masculin au féminin. Les églises sœurs, frères séparés. Dans ce texte, on ne parle pas des églises sœurs, sauf une seule fois pour dire que les églises orthodoxes sont entre elles comme des églises sœurs. Elles sont entre elles, les églises orthodoxes, comme des églises sœurs. Mais sinon, on parle des frères séparés. En fait, plusieurs fois, Paul VI a utilisé cette expression d'église sœur, mais ici, eh bien... on voit qu'il s'agit de plutôt l'expression nette de frères séparés. À travers tous les documents qui circulent dans l'Église autour de l'écuménisme, eh bien, d'un document choisi l'un, un document choisi l'autre, et je dirais c'est un petit peu le balancier, hein, qui montre si on est plutôt pressé de retrouver l'unité ou au contraire prudent dans ce rapprochement. Alors, il y a le fameux « subsistit in ». Vous l'avez sur votre feuille, donc j'ai indiqué le fameux, en gras, « subsistit in » et les quatre notes du credo. Les quatre notes du credo, c'est donc l'Église, je crois en l'Église, une sainte catholique apostolique. Je crois en l'Église, une sainte catholique. Et catholique peut vouloir dire universelle. Apostolique peut vouloir dire missionnaire, mais peut vouloir dire aussi venant des apôtres. Voilà, c'est ce qu'on appelle les quatre notes de l'Église, et on discute beaucoup sur ces quatre notes de l'Église. Quelle est l'Église qui remplit, je dirais, les conditions de ces quatre notes? Subsist it in, je lis le texte, qui est d'ailleurs sur votre feuille, de Unitatis Redintegratio au numéro 4. Cette unité... le Christ l'a accordé à son Église dès le commencement. Nous croyons qu'elle subsiste de façon inadmissible, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre, ce n'est pas inadmissible, hein, c'est inadmissible. Nous croyons qu'elle subsiste de manière inadmissible dans l'Église catholique. Et nous espérons qu'elle s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Alors, cette unité, le Christ l'a accordée à son Église dès le commencement. On n'a pas précisé à quelle Église. Nous croyons qu'elle subsiste. Alors, qu'elle subsiste, la lecture des textes latins me semble assez claire, c'est que cette Église du Christ, On pourrait penser que c'est l'unité, non, mais il me semble que c'est que cette Église du Christ, nous croyons que cette Église du Christ subsiste d'une manière qui ne fera jamais défaut, elle subsiste dans l'Église catholique. Et nous espérons qu'elle s'accroîtra toujours. Bien. Alors, ce subsistit in, subsiste dans, se retrouve dans deux autres textes du Concile. Un, Lumen Gentium 8, texte qui a déjà été promulgué, que vous avez déjà étudié, et Dignitatis Humanae, qui viendra plus tard, dès le paragraphe 1. On parle de ce subsistit in. Alors, je vous en dis un mot, parce que c'est un point délicat d'interprétation du Concile, hein. Autour de ce point, eh bien, il y a beaucoup de controverses dans la compréhension de ce subsistit in. Je lis d'abord peut-être le Lumen Gentium 8, que vous n'avez pas sur votre texte, mais vous l'avez une petite partie en latin pour ceux qui ont de bons yeux, hein, tout en dessous, mais je lis le contexte en français. Cette Église comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve. Gouverné par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de vérité se trouvent hors de ces structures, éléments qui, appartenant proprement, pardon de Dieu, à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Donc voilà, au fond, on dit que il y a bien sûr de nombreux éléments de sanctification, de vérité en dehors de l'Église, mais de droit, pourrait-on dire, de droit, eh bien, ce sont des dons qui sont faits à l'Église catholique et qui rejaillissent dans d'autres églises peut-être, mais ils reviennent au fond à l'Église catholique. Et ils appellent à l'unité catholique. Et donc cette Église, pas seulement mystique, mais comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui. Voilà, ça c'est le texte de Lumen Gentium. Il y a encore un texte dans Dignitatis Humanae, mais je ne l'ai pas, si ce n'est en latin, là, tout en bas. Hic hanc unicam veram religionem subsistere credimus in catholica et apostolica ecclesia. Voilà, donc cette formule revient trois fois dans le Concile. En fait, comment interpréter ce subsistit in? Il y a deux grandes interprétations. Je vais en développer une, un peu moins l'autre, parce que la seconde, me semble-t-il, est beaucoup plus facile à comprendre. C'est de dire que, eh bien, l'Église du Christ, c'est identiquement, ni plus ni moins, que l'Église catholique, gouvernée par le pape. Donc il y a identité entre cette Église du Christ et l'Église catholique. Identité absolue, donc il n'y a rien de plus, rien de moins, dans l'une que dans l'autre. Double implication. Mais, pour les pères conciliaires, je crois que pour beaucoup de pères conciliaires, il y avait une autre interprétation, pour Congar certainement, pour Tilliard ensuite, je ne sais pas s'il était père conciliaire, j'en sais rien, mais il a poursuivi donc un peu ce travail d'ecclésiologie. Donc dans cette ligne-là, l'idée c'est que le centre, le cœur, le centre de gravité, le cœur de l'Église du Christ est dans l'Église catholique. Elle subsiste là. C'est là son enracinement. C'est là qu'elle a tout son poids. C'est de là que jaillit la grâce. Mais en même temps, elle peut déborder ses frontières visibles, ses frontières institutionnelles. L'Église du Christ, l'Église en soi, si on veut, a bien sûr une relation réelle, substantielle, sacramentelle avec l'Église catholique, mais peut-être pas exclusive avec l'Église catholique. Elle subsiste dans l'Église catholique, ça veut dire que c'est là qu'elle a son centre. Alors, on dira, oui, bon, c'est une question de mots, alors finalement, qui a raison, qui a tort, comment est-ce qu'on argumente ce genre de choses? Bon, moi j'amène ici trois petits arguments qui viennent du Concile lui-même, dans la cohérence des textes conciliaires. Est-ce que le fait de dire que certains sacrements célébrés par des non-catholiques peuvent effectivement produire la vie de la grâce? Est-ce que ce n'est pas déjà dire qu'il y a là une richesse de l'Église du Christ? Puisque certains sacrements produisent une vie de grâce. Lesquels? Eh bien, le baptême dans les églises séparées d'Occident, et le baptême, le sacerdoce et l'Eucharistie dans les églises orthodoxes. Le Concile reconnaît clairement ces choses-là dans le chapitre 3, je vais en parler. Donc si ces sacrements sont reconnus comme parfaitement de vrais sacrements qui produisent leur effet de grâce, ben, la grâce déborde les frontières visibles de l'Église catholique, me semble-t-il. Voilà une première idée. Une deuxième idée, c'est que plusieurs fois dans Lumen Gentium, par exemple, on parle de l'Église pérégrinante, de l'Église qui est en route, qui est en marche, non seulement sur cette terre, mais aussi eschatologiquement. Alors une église pérégrinante, bon, c'est toujours moins fixe hein, qu'une église qui ne bouge pas. Je dirais que l'idée même de pérégrination, me semble-t-il, eh bien, montre qu'il faut un centre, mais en même temps qu'il y a un rayonnement dans beaucoup de directions, qui n'est peut-être pas facile de fixer, d'arrêter. Enfin, nous allons voir au paragraphe 6 que cette église du Christ, elle-même, est appelée à une réforme permanente, à une conversion. L'Église du Christ est appelée à une réforme permanente, à une conversion. Eh bien, les catholiques sont invités à une conversion, le décret le dira plusieurs fois, mais les orthodoxes et les protestants aussi, nous sommes tous appelés à une conversion. Donc, si une caractéristique de cette Église, c'est qu'elle est pérégrinante et appelée à une réforme permanente, je dirais que ça nous touche tous, de la même manière. Même si... Donc, on peut voir le centre de gravité, le cœur de cette Église du Christ dans l'Église catholique. Voilà, ça c'est une interprétation. Une autre interprétation, donc c'est celle qui est beaucoup plus rigoureuse hein, et qui marque les limites strictes de l'Église du Christ à l'Église catholique en disant « subsistit in » veut dire « voilà, le tracé est là ». Cette interprétation, eh bien, elle est assez courante aujourd'hui. Elle se trouvait explicitée dans le document dans la déclaration Dominus Iesus de l'an 2000, qui a été publiée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, dont le cardinal préfet était Joseph Ratzinger, donc il est clair que Joseph Ratzinger est pour cette seconde interprétation. Beaucoup de théologiens romains sont également pour cette seconde interprétation, parmi les professeurs de la Grégorienne ou autres. On peut trouver facilement des articles qui vont dans ce sens, par exemple chez Karl Josef Becker, jésuite, qui est donc professeur à la Grégorienne. Voilà, je croyais important d'insister sur ce subsistit in. Chacun peut se faire une opinion. Sans doute que le mieux, eh bien, c'est de se convertir entièrement à cette Église du Christ sans trop se préoccuper de savoir si on y est ou on n'y est pas. D'ailleurs, vous allez voir que dans le paragraphe suivant, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, je vous ai parlé du chapitre 1. Je passe maintenant au chapitre 2, l'exercice de l'écuménisme. Bon, on a donné un peu les principes. Eh bien, il est nécessaire à l'Église d'être en l'Église au cours de son pèlerinage sur la terre, dit le paragraphe 3, est appelée par le Christ à cette réforme permanente dont elle a perpétuellement besoin en tant qu'institution humaine et terrestre. Donc voilà, l'Église Ce n'est pas la formule Semper Reformanda qui était la grande formule luthérienne, hein, que l'Église Semper Reformanda doit sans cesse se réformer. Enfin, elle est appelée à une réforme permanente. C'est une évocation très claire de cette formule. Et nous sommes vraiment tenus à nous y engager. Nous sommes tenus à nous y engager. C'est le point 7, l'engagement œcuménique, parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité. Alors je vous lis ici un long extrait du paragraphe 7. Il n'y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure. En effet, c'est du renouveau de l'âme, du renoncement à soi-même et d'une libre effusion de charité que partent et nourrissent les désirs de l'unité. Voilà, appel à la charité, à la conversion ou au renoncement. Il nous faut par conséquent demander à l'Esprit-Saint la grâce d'une abnégation sincère, celle de l'humilité et de la douceur dans le service, d'une fraternelle générosité à l'égard des autres. Ce sont quand même des formules assez fortes qui s'adressent à qui? Aux catholiques, hein? D'abord, bien sûr. Mais on précise, cette exhortation s'adresse surtout à ceux qui ont été élevés à un ordre sacré dans le dessein de continuer la mission du Christ venu parmi nous, non pour être servi, mais pour servir. Donc voilà, je crois que là, il y a vraiment un appel à s'ouvrir, hein, à se convertir, à ne pas condamner, à ne pas conclure trop vite, etc. Aux fautes contre l'unité peut aussi s'appliquer le témoignage de Saint Jean. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Première lettre de Jean 1, 10. Donc voilà, si on dit la faute c'est eux, hein, c'est déjà tout au début de la Bible, hein, la faute c'est... Hein, eh bien, voilà. Au contraire, par une humble prière, nous devons demander pardon à Dieu et aux frères séparés. Par une humble prière, nous devons demander pardon à Dieu et aux frères séparés. Vous voyez donc que Paul VI a montré l'exemple, puisqu'au début de la seconde session, il a demandé ce pardon. Et en fin de troisième session, eh bien, est promulgué un texte, un décret qui le demande à tous les chrétiens, que tous les chrétiens s'unissent à cette démarche du pape. Le paragraphe 10, l'enseignement de la théologie, la formation œcuménique. Alors je crois que dans notre institut, nous devons honorer ce que ce décret nous dit au paragraphe 10. Hein. La théologie et les autres disciplines, surtout l'histoire, doivent être enseignées d'un point de vue œcuménique, pour mieux répondre à la vérité de leur objet. La théologie elle-même, la théologie catholique, romaine, doit être enseignée d'un point de vue œcuménique. Surtout l'histoire, dit-on. Ainsi, par exemple, ici, nous voyons, nous lisons la lettre de saint Paul aux Galates, et en même temps, nous lisons le commentaire de Luther. Le commentaire de Luther, Martin Luther, sur les Galates. Un gros commentaire comme ça, plein d'injures contre le pape, plein d'histoires, ah bon, eh bien, nous devons lire ça. Bon, une fois qu'on a lu les 100 premières injures, ça ne fait plus grand-chose, hein, et on découvre qu'il y a là quelque chose de très intéressant. Mais ce n'est pas facile, parce qu'il nous heurte aussi, hein, de plein fouet. Ce n'est pas une raison, il faut continuer. Et je crois qu'inscrire cela au programme, eh bien, oui, c'est un exercice d'écoute de l'autre, voilà, tel qu'il est, et parfois bien, on découvre des choses extraordinaires dans ce commentaire. Et ainsi de suite pour d'autres choses. Il y a un beau séminaire sur Karl Barth aussi, hein, qui, comme vous savez, maintenant, on croit presque à l'infaillibilité pontificale. Voilà, parce que ce sont des théologiens puissants, et il est intéressant de les écouter. Au paragraphe 11, l'esprit œcuménique doit également orienter et inspirer la manière d'exprimer et d'exposer la doctrine de la foi. Ce n'est pas n'importe comment qu'on expose la doctrine, même catholique, du filioque, par exemple. C'est un point difficile. ou de la justification, qui est un point difficile. Ce n'est pas de n'importe quelle manière qu'on le fait. Les théologiens catholiques sont donc appelés à conduire leurs recherches sur les divins mystères en union avec les frères séparés, en union avec eux, dans l'amour de la vérité, la charité et l'humilité. Et ils sont appelés à élaborer un langage théologique plus écuménique, plus écuménique. Voilà, je crois que ça c'est un point important. Par exemple, ici les étudiants qui doivent faire un DU de théologie, comme on dit, un DU de théologie dogmatique, qui doivent faire un examen comprehensive hein, sur toute la théologie dogmatique, et il y a une thèse ou deux sur l'Église. Et alors moi, je dois vérifier ces thèses avant qu'on les défende, et si il n'y a aucune note écuménique dans aucune de ces deux thèses, je dis qu'elles ne sont pas tout à fait complètes. Je ne dis pas qu'elles sont fausses, évidemment, hein, mais elles ne sont pas tout à fait complètes. S'il n'y a pas une note écuménique, si on ne signale pas hein, qu'il y a des chrétiens catholiques, oui, mais pas seulement catholiques. Il faut le dire. Ça fait partie de la dogmatique chrétienne catholique aussi. En fait, cette invitation aux théologiens à travailler ensemble a été largement mise à profit après le Concile. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de dialogues bilatéraux, trilatéraux, multilatéraux, dans tous les sens, dans tous les pays, qui se sont mis en route, notamment par exemple le groupe des Dombes, un groupe qui a travaillé très sérieusement et avec beaucoup de persévérance pour élucider des choses, et entre catholiques et protestants, entre autres, même sur la Vierge Marie, etc. Il y a de très beaux documents qui ont été publiés à cette occasion. Voilà, donc l'enseignement de la théologie, dit-on dans ce décret, doit être, eh bien, écuménique. Chapitre 3. Le chapitre 3, comme je vous ai dit, est plus concret. Il examine eh bien, les rapports avec, vous voyez le titre général, les églises et communautés ecclésiales séparées. Et puis dans les sous-titres, vous voyez une différence. Les églises orientales, on n'ajoute pas séparées. Enfin, elles appartiennent au titre général, mais dans le sous-titre, on n'ajoute pas séparées. Et pour les protestants, on dit les églises et communautés ecclésiales séparées. Donc on ajoute communauté, parce qu'il y a beaucoup de groupes protestants qui ne sont pas vraiment des églises, etc. Alors à ce propos, donc au paragraphe 13, je lis « Nous examinons maintenant deux sortes de scissions principales qui ont affecté la tunique sans couture du Christ. » Grosso modo, d'un côté les églises orientales, de l'autre les églises et communautés ecclésiales séparées en Occident. Ce sont les deux toutes premières dates que je vous ai mises, 1054 et 1521. Ce petit paragraphe fait une parenthèse à propos de la communion anglicane. Mais c'est d'ailleurs, elle n'y reviendra pas. Parmi celles qui gardent en partie les traditions et les structures catholiques, la communion anglicane occupe une place particulière, dit-on au paragraphe 13. Mais après, on n'en parlera plus. Mais disons, dès le labor, on commence comme cela. Ensuite, on se penche sur les églises orientales. Avec un grand respect, je lis, il y a en Orient plusieurs églises particulières ou locales, au premier rang desquelles sont les églises patriarcales, dont plusieurs se glorifient d'avoir été fondées par les apôtres eux-mêmes, et dans lesquelles l'Église d'Occident a puisé beaucoup d'éléments de la liturgie, de la tradition spirituelle et du droit. On reconnaît tout cet héritage que l'on doit à l'Orient. N'oublions pas non plus que des dogmes fondamentaux de la foi chrétienne, entre parenthèses Trinité, Incarnation, ont été définis dans des conciles écuméniques tenus en Orient. Les sept premiers conciles écuméniques sont tous tenus en Orient. Vous avez aussi en microfiche, là, dans notre cap, les sept conciles écuméniques avec les dates. Ensuite, sur les sacrements. Puisque ces églises, bien que séparées, ont de vrais sacrements, principalement en vertu de la succession apostolique, le sacerdoce et l'Eucharistie, vrais sacrements qui les unissent intimement à nous, une certaine communicatio in sacris, dans certaines circonstances, est non seulement possible, mais même recommandable. Alors, une certaine communicatio in sacris, ça veut dire dans les sacrements, ici, hein, dans le contexte, mais une certaine communicatio, donc une certaine participation commune au même sacrement. Eh bien, puisque ces églises orientales ont de vrais sacrements, une certaine communication in sacris dans certaines circonstances est non seulement possible, mais même recommandable. Et il y a eu, le 4 décembre 65, eh bien, à Saint-Paul hors les murs. Alors, où est mon texte ? Une grande célébration, justement, hein, où le pape lui-même a participé pour la première fois en présence de non-catholiques. Voilà, le 4 décembre 65 avait lieu à Saint-Pierre-hors-les-Murs une liturgie écuménique où, pour la première fois, l'évêque de Rome participait à une célébration commune avec des célébrants non-catholiques. Exemple imité depuis par de nombreux évêques et d'innombrables communautés catholiques d'Orient et d'Occident. Juste avant la clôture donc du concile. L'Orient est aussi le lieu de naissance du monachisme, dit le décret, au paragraphe 15. Au paragraphe 16, une chose importante aussi, depuis les origines, les églises d'Orient ont suivi une discipline propre, sanctionnée par les saints-pères et par des conciles même écuméniques. Il n'est pas du tout contraire à l'unité de l'Église qu'il y ait diversité de manières et de coutumes. Donc il y a des rites différents, il y a des liturgies différentes, il y a un droit différent, hein, dans ces différentes églises orientales. Eh bien, ça ne va pas contre l'unité, hein, qu'il y ait cette diversité. Par exemple, je suppose, ben le mariage des prêtres, c'est une autre discipline. Eh bien, ça ne va pas nécessairement contre l'unité. Une grosse différence, évidemment, mais ça ne va pas nécessairement contre l'unité. Ces diverses formules théologiques doivent souvent être considérées comme plus complémentaires qu'opposées. Et enfin, et c'est là que je rejoins la question du célibat, on touche la délicate question des uniates. Les uniates, ce sont ces églises orientales qui, à un moment de leur histoire, elles étaient séparées depuis 1054 ou une autre date, ils étaient séparés. À un moment de son histoire, certaines communautés de ces églises orientales ont voulu s'unir à Rome, et c'est ce qu'on appelle les uniates, qui ont gardé leurs coutumes, leurs rites, leur liturgie, etc., éventuellement leurs prêtres mariés, par exemple. L'église gréco-catholique en Roumanie, par exemple, a des prêtres mariés. J'ai déjà concélébré avec un prêtre marié, tout à fait catholique, mais d'un autre rite. Alors, ici, le document dit « Rendant grâce à Dieu de ce que beaucoup d'Orientaux, fils de l'Église catholique, qui gardent ce patrimoine et désirent en vivre plus purement et pleinement, rendons grâce qu'ils vivent déjà en pleine communion avec leurs frères qui gardent la tradition occidentale. » Alors oui, c'est très bien, je dirais, du point de vue occidental, c'est très bien. Ces frères orientaux gardent une communion avec les frères occidentaux, mais souvent ces uniates ont beaucoup de problèmes avec leurs frères orientaux. Parce qu'ils sont eux-mêmes orientaux et ils se sont détachés, si on veut, de l'église orientale d'origine pour devenir des uniates. Alors ça fait encore une différence. Tout cela bien examiné, le concile renouvelle ce qui fut déclaré par les conciles antérieurs, ainsi que par les papes romains. Pour rétablir ou garder la communion et l'unité, il ne faut rien imposer qui ne soit nécessaire. Rien imposé qui ne soit nécessaire. Ça, c'est aussi une formule de Jean 23 qui est quelque part dans mes papiers. Hein. Et dans les choses, l'unité dans les choses nécessaires, la liberté dans les choses, je ne sais plus comment on dit, douteuses, je crois, et la charité en toutes choses. Ça, c'est une formule de Jean 23 lorsqu'il a initié le concile. Hein. L'unité dans les choses nécessaires, la liberté dans les choses qui sont plus libres et la charité en toutes choses. Maintenant, à propos des églises protestantes, les églises et communautés ecclésiales séparées en Occident, Là, il faut bien avouer que le texte est beaucoup plus critique. Ici, le décret est beaucoup plus critique. Le protestantisme est radicalement différent de l'orthodoxie et de l'anglicanisme. C'est bien marqué dans ce décret. C'était déjà dit au paragraphe 13 qu'il y avait donc deux scissions, qu'elles étaient bien différentes. Au paragraphe 13, on disait « Mais les diverses séparations diffèrent beaucoup entre elles, non seulement en raison de leurs origines et de leurs circonstances de temps et de lieu, mais surtout par la nature et la gravité des questions concernant la foi et la structure ecclésiale. » Au paragraphe 19, on amène d'abord un élément positif. Voilà, ces églises séparées occidentales vivent évidemment dans une affinité particulière avec l'Église catholique à cause des circonstances historiques et géographiques, hein, des relations dues à une longue durée de vie du peuple chrétien dans une communion de cœur de ces églises. Ça n'a pas toujours été facile, mais au moins il y a une présence de l'un à l'autre. Hein. Si vous vivez dans un pays uniquement catholique, comme l'Italie par exemple, ou dans un pays où il y a des protestants et des catholiques, eh bien vous voyez que c'est très différent, comme en Hollande ou en Allemagne ou ailleurs. C'est très différent. Il y a une histoire commune, hein, qui fait que malgré tout, ben, on est toujours là ensemble, même si on a des divergences théologiques. Mais après cet élément positif, donc une longue familiarité, vie commune, le décret exprime son embarras. C'est plus un embarras, me semble-t-il, que, disons, une sévérité ou une critique. Et voilà comment il est exprimé, me semble-t-il, au paragraphe 19. Étant donné que ces églises et communautés ecclésiales, je vous rappelle que dans le Conseil œcuménique des églises, il y en a 349. Hein. Donc c'est vrai que c'est un bon paquet. Étant donné que ces églises et communautés, à cause de leur diversité d'origine, de doctrine, de vie spirituelle, se distinguent notablement, non seulement de nous-mêmes, mais aussi entre elles. Non seulement de nous-mêmes, catholiques, mais aussi entre elles. Il est très difficile de bien les définir. Et nous n'en avons pas ici l'intention. Donc voilà, hein, une déclaration de prudence. Il est bien difficile de les définir, je crois que c'est tout à fait vrai. Comment faire une description commune ou même un peu nuancée de 300 confessions chrétiennes différentes, hein, c'est très très compliqué. Donc voilà l'embarras, je crois, du texte. Ce n'est pas du tout la même chose avec les églises orientales, mais ces communautés séparées d'Occident, embarras. Il est très difficile de bien les définir. Au paragraphe 20, nous avons en vue surtout ces chrétiens qui confessent ouvertement Jésus-Christ comme Dieu et Seigneur, unique médiateur entre Dieu et les hommes, pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint. Donc on rappelle ces deux critères, christologiques et trinitaires, hein, affirmés en 61 par le Concile œcuménique des Églises, repris par le décret. Certes, mais nous savons qu'elles ne sont pas légères, les différences qui existent par rapport à la doctrine de l'Église catholique, même au sujet du Christ, Verbe incarné, et de l'œuvre rédemptrice, et par suite au sujet du mystère et du ministère de l'Église. Ainsi, et par suite, au sujet du mystère et du ministère du rôle de Marie dans l'œuvre du salut. Non, elles ne sont pas légères, ces différences. Donc on souligne, voilà, cet embarras. Pourtant, bien sûr, point positif de nouveau, je cite, « l'amour et la vénération, presque le culte de nos frères pour l'Écriture sainte ». Donc là, on souligne, hein, cet amour de l'Écriture sainte. Mais, en même temps, dans cet amour de l'Écriture sainte, il y a une différence notable dans la manière dont on l'interprète, notamment par rapport au magistère. Pour les catholiques, dans la foi catholique, le magistère authentique occupe une place particulière, justement, pour l'explication et la prédication de la parole de Dieu écrite. Donc le magistère, hein, le pape et les évêques et les conciles, etc., ont une autorité dans l'interprétation de l'Écriture. Chez les protestants, comme vous savez, il y a un grand attachement à l'Écriture et en même temps, il n'y a pas d'autorité. Qui a autorité sur l'Écriture? L'Écriture. On explique l'Écriture par l'Écriture. Sola Scriptura. crois que c'est très important. Hein. Il faut que l'écriture soit cohérente, qu'elle s'explique par elle-même aussi. Hein. Mais en même temps, il y a des choses qui sont presque indécidables à un moment donné. Et dans l'Église catholique, donc le magistère a ce charisme d'interpréter authentiquement la parole de Dieu, aussi bien dans l'explication du texte que dans la prédication. Ensuite, on reconnaît que si du côté orthodoxe on reconnaissait de vrais sacrements, et trois, le baptême, le sacerdoce et l'Eucharistie, ici on ne reconnaît que le baptême. Mais le baptême n'est qu'un commencement, dit le texte. Et on dit même explicitement que pour la question du sacerdoce et de l'Eucharistie, c'est compliqué. Bien qu'elle n'ait pas avec nous la pleine unité dont le baptême est la source, et bien que nous croyons que, en raison surtout de l'absence du sacrement de l'ordre, elles n'ont pas conservé la substance propre et intégrale du mystère eucharistique. Vous savez donc que du côté, dans la succession apostolique, hein, nous descendons par ordination des apôtres, on peut retracer pratiquement cet arbre généalogique hein, de la tradition apostolique, tant du côté catholique que du côté orthodoxe, du côté anglican aussi, mais du côté protestant, il y a eu souvent une rupture. Hein, une rupture. Donc il y a des ministres qui n'ont pas été ordonnés par d'autres ministres eux-mêmes ordonnés dans la tradition apostolique. Donc cette rupture avec la tradition apostolique pose un gros problème au niveau du sacerdoce et donc de l'Eucharistie. Donc au fond, avec ces églises occidentales, il y a le baptême. C'est très important. Et ce baptême, on le souligne, a amené ces chrétiens à une charité agissante. Cette foi agissante a même provoqué l'institution de beaucoup d'œuvres de soulagement de la misère spirituelle et corporelle. Il y a énormément de missions caritatives dans les églises protestantes. Je ne pense qu'à l'Armée du Salut, qui est une institution que tout le monde connaît, mais qui est vraiment des gens qui s'organiser comme une armée pour combattre la misère et qui ont fait un bien énorme. On retrouve encore partout des communautés d'armée du salut qui aident les pauvres, aujourd'hui à Bruxelles et ailleurs. Donc pour l'éducation de la jeunesse, l'amélioration des conditions sociales de vie, l'établissement partout d'une paix stable. Mais voilà la conclusion, c'est que on met en garde contre un activisme écuménique intempestif qui voudrait brûler les étapes. Je lis, le Concile exhorte les fidèles à s'abstenir de toute légèreté, de tout zèle imprudent, qui pourrait nuire au progrès de l'unité. En voulant aller trop vite, on fait peut-être pire que bien. Leur activité écuménique ne peut en effet être que pleinement et sincèrement catholique. Et on souligne finalement que l'unité, elle nous sera donnée d'en haut. Le Christ a prié pour cette unité en Jean 17. Si le Christ a prié son Père pour cette unité, c'est sans doute à la veille de sa mort, c'est que ça lui semblait une chose difficile à confier facilement aux hommes, aux êtres humains. Ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. Et ainsi le document conclut en nous invitant à nous remettre aussi à la grâce de Dieu dans toutes les activités que nous entreprenons pour cette unité de tous les chrétiens. Je vous remercie.